Salut, je suis Gary Beneza et je vous emmène dans les coulisses du Web3. Finances décentralisées, NFT, métaverse et autres innovations dans la blockchain, je pars à la rencontre des principaux acteurs francophones du Web3 pour comprendre comment ils ont lancé leur projet et comment ils sont en train de construire leur succès au quotidien. Découvrez tout de suite un nouvel invité passionnant qui réinvente le monde d'aujourd'hui grâce au Web3. C'est parti! Salut Zacharia, bienvenue dans les coulisses du Web3.
Salut Gary, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Tu es cofondateur et CEO de VierState. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant VierState ?
Bonjour, moi je m'appelle Zacharia Labide, j'ai 24 ans aujourd'hui.
Joyeux anniversaire.
Alors, à chaque fois je dis aujourd'hui, mais c'est vrai que
oui, pardon.
c'est pour dire à partir de maintenant. Et alors là où je vis, bah, je suis à Courbevoie, j'ai toujours été à Paris dans le 15e, j'ai toujours été vraiment parisien. Sinon, du coup, au niveau de mon parcours, bah, je suis un passionné de tech. Moi, j'ai commencé à coder à 10 ans. En fait, j'ai rencontré justement mon associé qui est aujourd'hui avec qui j'ai fondé VierState sur Minecraft. En fait, c'était assez marrant puisque lui, il était en train de jouer tranquillement. Moi, j'ai toujours aimé un peu tricher dans les jeux, créer des cheats, créer des codes de hack. J'avais appris un peu tout ça, il jouait tranquillement. Et puis après, je suis allé essayer de le hacker, de détruire sa base sur Minecraft. Il avait créé des bases avec de la terre cuite, etc. C'est comme ça qu'on est devenus amis. On s'est parlé sur Skype. Le parcours, bah, vraiment, c'est qu'après, on a créé un des premiers serveurs français Minecraft. On a eu dans notre base de données au fil des années, ça va vraiment faire jusqu'à mes 20 ans quoi, environ, qu'on a bien géré. On avait 200 personnes qui travaillaient pour nous et on a réussi à avoir près d'1 million de joueurs. Donc c'était assez colossal. On a beaucoup appris en fait, nous, notre entrepreneuriat au départ quand on a commencé. C'était très nouveau pour nous. On était vraiment en mode c'est incroyable quand même de pouvoir entreprendre sur Minecraft. On l'a compris à la fin. Hein. Au départ, on s'était dit c'est une expérience qu'on fait pour s'amuser. Tout le monde faisait un serveur à l'époque. Puis on a recodé ça. En fait, moi, je l'ai recodé. J'ai appris le Java, j'ai appris le PHP pour faire mon site internet, mettre une boutique PayPal, etc. Et puis après, bah voilà, j'ai fait un parcours sinon assez classique dans l'informatique. J'ai fait Epitech. Je travaillais pour des boîtes en freelancing telles que Partech Venture, un fonds d'investissement américain. J'ai eu des gros projets sur lesquels j'ai pu travailler tech. Et puis après, The Couples, une belle expérience aussi en tant que stage, les startups. Je suis très tech, j'adore ça. J'étais beaucoup dans le web, j'ai monté mon ESN aussi avant de faire VierState. Et aujourd'hui, bah, voilà, on est sur VierState. pour compléter la présentation de VierState, nous aujourd'hui, VierState, on aide les entreprises à rentrer justement dans le Web3, ces univers, puisque finalement, avec Minecraft, pendant 10 ans, on a accompagné une communauté, l'animer tous les jours, essayer d'avoir une rétention de joueurs. Pour nous, ce n'était pas si différent que d'avoir un land dans le métaverse, on en parlait un peu. Mais c'est vraiment plutôt ça notre vision. Et aujourd'hui, on accompagne les marques avec des vraies stratégies pour qu'elles puissent s'implanter dans le Web3. Et après, je vais y venir un peu au fil de la discussion. Mais là, on a une nouvelle idée, comment on va scaler, parce que du coup, on est des techs. Une entreprise de service, c'est un peu bizarre pour nous. On aime bien automatiser, scaler. Et du coup, on prépare une levée de fonds pour créer la première marketplace des métaverses.
Super, on aura l'occasion de revenir justement sur VierState. Je voudrais d'abord revenir sur ton expérience de Minecraft. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà rappeler ce que c'est Minecraft ?
Ouais. Alors, Minecraft, c'est un jeu... Moi que j'aime bien dire, ils avaient déjà l'UGC avant l'heure. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'était vraiment un jeu que... En fait, moi, je l'ai connu d'ailleurs sur YouTube. Il y avait des YouTubeurs assez connus, The Fantasio 974, on les appelle, et Bob Lennon. En fait, ils faisaient des vidéos YouTube. Moi, je voyais mon frère y jouer. C'est un jeu, en fait, où un peu survie à la base. Normalement, c'est un jeu un peu solo player. Tu es dans un monde, tu peux miner, tu peux créer ta base. Et le but, c'est de tuer un dragon à la fin. Et du coup, c'est un jeu où, en fait, aujourd'hui, la capacité, ce qui est incroyable, c'est que comme du coup, c'est de la création, directement, en fait, en tant que joueur, tu peux construire dans le monde, le modifier, interagir avec. Lorsque tu mets du multijoueur sur ce genre de jeu, donc qui sont à la base survie et créa, et ben, eux, ils avaient développé un SDK. Et ce SDK, bah, c'est avec ça que nous, on avait déjà pu créer plein de modifications de jeu. Et aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens ne jouent plus vraiment à Minecraft. Plus personne ne joue à Minecraft. Tout le monde joue sur des versions modifiées de Minecraft qui ont été créées par la communauté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment sur le métaverse un peu avant l'heure.
Ouais.
Parce qu'en fait, toutes les communautés aujourd'hui se rallient. Alors, il y a des modes, tu as du mini-jeu. C'est-à-dire pour vraiment expliquer aujourd'hui comment les gens y jouent, ils vont. T'as un très gros youtubeur d'ailleurs, Inoxtag, là très récemment, qui a ouvert son serveur Minecraft hein, sur la base de mini-jeux. C'est des mini-concepts, beaucoup de PVP, c'est du combat contre joueurs. Donc c'est-à-dire vraiment, tu vas être avec tes amis, vous allez faire une équipe de deux et vous allez vous battre. Il y a des objectifs, par exemple, t'as pas le droit d'utiliser des arcs pour envoyer des flèches pour tirer sur les ennemis, tu vas devoir utiliser que des épées. Enfin, t'as plein de concepts un peu comme ça. Et c'est des mini-jeux où après nous on avait un mode, ça s'appelait le PVP faction, où en fait l'objectif c'était un peu comme du survie, donc tu devais farmer donc, tous les jours, essayer d'avoir le plus de stuff, on appelle ça, donc c'est des armures, des équipements, en fait devenir le plus riche. Et après bah, ton but c'est de faire des canons et détruire les bases des autres et piller leur terrain, donc c'est un peu vraiment... je dirais un Age of Empire ou autre où tu vas piller les bases et tu vas conquérir le plus de terrain pour devenir la plus grosse faction. Et c'est des modes de concept et en fait c'est ça qui est magique dans Minecraft, c'est que c'est vraiment un jeu qui a permis aux créateurs de vraiment commercialiser aussi maintenant, parce qu'il y a eu la marketplace de Minecraft. Nous on utilise beaucoup ce fait, c'est-à-dire que bah, avant les créateurs, en fait ce qui est fou c'est que bah, tu trouves des modes Minecraft qui sont Mario Kart, tu peux jouer du Mario Kart, tu peux jouer à des modes Hunger Games, donc comme un peu un Battle Royale. Et en fait tout ça, ça a été développé au départ par des gens qui l'ont fait gratuitement. Et puis Minecraft, au fur et à mesure, bah, ils ont créé une marketplace sur leur site internet qui a généré d'ailleurs 330 millions de dollars environ aux créateurs. Et en fait, on était déjà un peu dans ce début de l'UGC où on a réussi à commercialiser les créateurs, puisqu'en fait, ce qui est magnifique, c'est que tout le monde crée gratuitement au départ sur Minecraft. Et c'est pour ça que c'est un jeu, moi, voilà, pour bien le décrire, c'est un jeu créatif. Mais aussi maintenant avec une multitude de jeux, de contenus. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'apparente beaucoup au métaverse, parce que le challenge des métavers, c'est d'avoir du contenu. Parce que demain, s'il n'y a pas de contenu, bah, on va vite s'ennuyer. Et demain, sur Minecraft, il y en a tellement que c'est impossible. Demain, tu t'ennuies sur un serveur, tu peux aller sur un autre. Et c'est très, très multiplayer, je dirais, aujourd'hui, des systèmes de jeu. Donc, c'est ça qui est assez cool.
Tu parlais du UGC, hein. UGC, si je dis pas de bêtises, c'est User Generated Content.
Exact.
Alors moi je suis pas trop un gamer, hein, mais de Minecraft c'est un peu comme World of Warcraft ou Fortnite, c'est un peu le même style de jeu.
Alors je dirais dans le sens multiplayer avec plein de personnes, la différence c'est que là c'est les personnes qui vont hoster leur serveur. Donc okay. C'est-à-dire qu'en gros, imagine pour demain faire un serveur Minecraft, bon... Je dirais, il y a plein de méthodes, mais nous aujourd'hui, bah, t'imagines, on a dû aller sur OVH, acheter un serveur, configurer. Donc, c'est-à-dire, en gros, vraiment, c'est du charabia au départ. Moi, en plus, j'avais pas d'argent quand j'étais jeune, du coup, j'ai demandé à un pote, on négociait, tu vois, on apprenait la première fois d'être commercial. Ah, t'inquiète, je te mettrai administrateur, modérateur, si tu payes le serveur. Et du coup, bah, après, on codait le serveur, c'était du Linux, on regardait sur Internet, enfin, il y avait tout sur YouTube. Moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à coder. C'était comment faire un serveur Minecraft, etc. Et à différence de World of Warcraft, Fortnite, c'est qu'aujourd'hui, c'est bah, Epic Games qui héberge Fortnite. La différence de World of Warcraft, bah, pareil, c'est World of Warcraft qui héberge leur jeu, donc Blizzard derrière. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Minecraft aujourd'hui, vraiment, moi, je ne vois plus le côté solo aujourd'hui de Minecraft. Pour moi, un utilisateur qui joue au solo, c'est un jeune qui est chez lui, qui a la PlayStation, parce que souvent sur la PlayStation, bah, c'est vrai que tu as un peu moins l'interactivité de pouvoir vouloir jouer en multi, alors que sur PC, c'est vraiment la base. Hein. Tu es sur TeamSpeak à l'époque, Skype, puis aujourd'hui, c'est Discord qu'on utilise. Et en fait, ce qui est assez fou, bah, c'est que Minecraft, c'est nous les créateurs qui devons hoster notre serveur, donc ça nous fait des coûts, donc il faut créer un système d'économie. Je dis que c'est vraiment le futur land de la métaverse, c'est-à-dire que demain, quand tu as ton LAN virtuel, c'est comme si tu avais un serveur hosté. La différence qui est cool dans la métaverse, c'est que le serveur, il est hosté par Du coup, l'entreprise, par exemple Sandbox, pour moi, quand tu achètes un land sur Sandbox, le serveur, c'est un serveur derrière quand tu es connecté en final. Pour ça, je dis, je suis très tech, hein, tu vas voir quand j'explique. Au final, tu as un serveur et tu ne payes pas en fait, par mois une machine. Alors que nous, par exemple, quand on arrivait à des pics comme 1000, 2000 connectés, déjà, il fallait faire de l'optimisation parce qu'un jeu, tenir 2000 joueurs, c'est presque... surtout sur Minecraft qui a été très très mal codé hein, puisque nous on a pris le code source de Minecraft, on a modifié la partie serveur et la partie client, donc quand tu lances le logiciel sur ton PC tout ça il faut le recoder et il faut le gérer. En fait, du coup, on devient finalement comme des éditeurs de jeux vidéo à toujours essayer de la performance. C'est ça la très grosse différence, je dirais, entre Minecraft et Fortnite et World of Warcraft. Après, sinon, c'est des différences de jeu. Fortnite, c'est un Battle Royale. Donc, tu as vraiment un mode de jeu où tu vas jouer tout le temps et ce n'est pas la même partie, je dirais. C'est-à-dire, c'est tout le temps des parties différentes. Et World of Warcraft, c'est un MMORPG. Donc, tu as un niveau, tu as des serveurs, par contre, ça, c'est vrai que tu as des serveurs français, tu as des serveurs anglais, etc. Et la différence, c'est que là, par contre, tu es vraiment dans la même zone avec tout le monde, tout le temps. Ton but, c'est d'arriver niveau 200. Je sais plus, moi, je pense même maintenant ça a augmenté. Et tu farmes, t'achètes du stuff, et puis après, il y a l'alliance, la horde, et tu combats. Voilà, il y a tout le système du jeu, le lore qu'ils ont créé, quoi.
Ça marche. Ouais, du coup, c'est vraiment un jeu open source, en fait, où n'importe qui peut construire dessus, et il y a des évolutions constantes.
C'est ça que je dis, c'est que que même Roblox du coup a recréé ce schéma hein, finalement. Minecraft, c'est qu'ils ont créé leur SDK, ça s'appelle Bucket au départ. Puis en fait, finalement, des mecs de la communauté ont pris Bucket et ils l'ont amélioré parce que c'est vrai que Minecraft c'est pas du tout optimisé de base. Aujourd'hui, si tu voudrais prendre le code source de Minecraft de base, tu le mets sur un serveur que tu viens d'acheter sur OVH comme on a fait au départ, tu peux tenir 50-60 joueurs maximum. Et du coup après il faut faire des optimisations, il faut acheter une meilleure machine et puis finalement tu arrives rapidement à 1 000 € par mois pour pouvoir tenir plus de 1 000 joueurs et donc beaucoup d'optimisation. Puis au final, tu craftes ça toi-même. Mais oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu open source. Par contre, c'est vrai que tu as encore des... Légalement, c'était toujours aussi un problème de comprendre est-ce que tu as le droit de modifier le code source du jeu. Oui, puisque tu as des personnes qui ont créé de l'open source à base de ça, d'autres modes, d'autres communautés de modes qui ont créé. Mais la grosse différence de Minecraft, c'est que par contre, c'est un jeu à la base que tu payes 20 €. Le problème, c'est que tout le monde s'est amusé à créer une partie crack. C'est aussi pour ça que moi, souvent, tu vois, quand je vois la métaverse, plus tard, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont prendre, je sais pas, une métaverse et ils vont la recoder eux-mêmes en reprenant leur code source et ils vont faire des serveurs privés, nous, on appelait ça. Et du coup, le côté crack, en fait, ça veut dire que tu ouvres le jeu à n'importe qui, même s'il n'a pas payé le jeu. Donc, tu n'as plus la vérification de Mojang, la société qui avait Minecraft, donc qui a été rachetée par Microsoft aujourd'hui, qui permet de vérifier. Et World of Warcraft, pareil. Bon, Fortnite, ce n'est pas vraiment le concept, puisque tu as vraiment d'objectif de jouer crack, c'est gratuit. Et du coup, World of Warcraft, pareil, tu as des gens qui ont répliqué World of Warcraft, donc c'est-à-dire que vraiment, chez eux, ils ont une base de code, ils peuvent refaire World of Warcraft. Et tu as toujours ce côté, l'open source sur Minecraft est autorisé, mais pas pour les cracks. Et là, c'est ça où je dis toujours quand la métaverse, finalement, on va revenir avec peut-être ces problématiques, parce que c'est assez simple, finalement, de prendre le code source d'un jeu et de modifier, puisqu'on est tous sur des moteurs de jeu. À quelle vision? C'est-à-dire que World of Warcraft, c'est quand même des années de développement, ce qu'ils ont fait pour pouvoir reproduire ça, et Minecraft aussi.
Ouais. Hyper intéressant. Et du coup, alors merci pour ce récap, parce que moi, récupérer ma culture gaming en quelques minutes. Tu as créé ce serveur à 13 ans et ça a duré 7 ans, c'est ça?
Ouais, à peu près. Après, moi, je dis souvent, on a arrêté à 20 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours notre Discord, on aime bien parler un peu dedans. Parce que en fait, ce qui est assez cool, c'est que. Et c'est pour ça qu'on aime bien dire aux marques aussi que dans le Web 3, avoir sa communauté, c'est important. Parce que nous, on a vraiment ressenti, c'est qu'aujourd'hui encore, malgré qu'on a fermé le serveur, tu as des gens qui viennent nous dire. Bon, il ouvre quand toujours c'est... En fait, tu as vraiment une communauté, c'est assez fou parce que aussi, tu as des gens qu'on a travaillé avec énormément de personnes. D'ailleurs, j'expliquerai après parce que nous, comme on est des architectes virtuels, c'est là qu'on a créé notre réseau. En fait, On a récupéré des centaines d'architectes qu'on avait créé, qui construisaient en fait pour nous, et qu'on a finalement explosé un réseau qui se construisait sur Minecraft, GTA, Roblox. Et on a créé nos propres Discord, encore une fois des communautés. Mais oui, c'est assez incroyable, puisque aujourd'hui, toutes ces personnes, finalement, elles restent avec nous, elles sont encore sur le Discord, il y en a qui believe. Puis après aussi, tu as le côté négatif, tu as les trolls, tu as ceux qui essayent de te hack. Moi, j'ai eu beaucoup de Russes, je ne sais pas d'où ils venaient, mais qui essayaient de venir nous exploser, quoi, je dirais. Ils étaient là, essayaient de nous hacker. Et puis, tu apprends énormément de choses là-dessus, puisque quand tu as ta communauté, c'est souvent des jeunes. Au départ, ils étaient tous jeunes. Ça fait 8-7 ans, mais on les a vus grandir beaucoup et apprendre des erreurs. Et nous-mêmes, on a appris nos erreurs. Donc c'est, oui, 7 ans, je pense que c'est une bonne année pour dire un peu tout ça.
Magnifique. Et donc, tu parlais vraiment de centaines de personnes, hein, qui ont contribué à votre serveur, que ce soit des développeurs, des architectes numériques, entre guillemets.
Exactement.
Des modérateurs. Comment ça se passait pour les manager, entre guillemets? Vous étiez une sorte de DAO avant l'heure
Alors, c'est assez incroyable, parce que nous, ouais, on est. Alors moi, j'aime bien dire même plutôt le télétravail avant l'heure, c'est-à-dire c'est pas le Covid qui nous a vraiment appris à gérer des équipes à distance. En fait, ce qui était fou, c'était que c'était assez simple, la chaîne. Nous, on était les fondateurs avec Maddy, bien entendu, pour récupérer de la communauté. On s'est associé avec des YouTubers qui ont aujourd'hui 2 millions d'abonnés. Qui étaient venus sur notre serveur. Il y a Oxylac, First Jumper aujourd'hui, c'est, je pense, le plus gros YouTuber Roblox, et d'autres qui maintenant, c'était plus sur les payés, quoi, pour qu'ils venaient. Et puis après, tu avais les administrateurs qui devaient gérer les modérateurs, qui les modérateurs avaient des chefs modérateurs, et du coup, c'était vraiment un système en chaîne, pyramide. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, je dis toujours que Slack, c'est un outil payant, mais Discord, nous, c'est vraiment Discord là où on a fait des belles gestions. C'est-à-dire que petit à petit, oui, on est arrivé à 200, mais avant, oui, on était 10, 20, 50. Puis en fait, Discord et TeamSpeak, c'était deux outils à l'époque qui nous permettaient de parler en vocal. Puis tu avais tout le monde en vocal, c'est-à-dire que le soir, on se faisait des sessions, on mettait en place des réunions pour créer une culture. Au final, on ne se rendait pas compte. On se rendait pas compte qu'on était en train de créer une culture. Et puis, Discord permet de manager énormément de choses. On avait un truc qui nous envoyait des récaps, et c'était même pas nous qui avions inventé ça. C'est une personne qui s'appelle Mathis, qui est toujours avec nous d'ailleurs aujourd'hui sur VierState, qui était administrateur, et il avait créé des stats, c'est-à-dire que tous les jours, on savait qui avait passé combien de temps sur le Discord. Ils avaient des quotas d'heures à faire. Ce qui était fou, c'est que c'était bénévole. Et en fait, pourquoi les gens travaillaient? Parce qu'ils adoraient le serveur, ils adoraient aussi la vibe, la culture. Et puis, ceux qui étaient payés, c'était les développeurs, les graphistes, les vidéastes 3D. Et puis après, nous, j'étais un très, très gros développeur aussi avec un autre encore associé fondateur qui était un Belge avec qui je travaillais, qui lui, par contre, tous les deux, on voulait garder la main, parce que, imagine, quand tu es quand même à distance, la seule problématique, c'est que tu es jeune, tu crées un serveur de communauté. Puis les personnes qui travaillent avec toi, souvent, si tu leur donnes accès à du code source, demain, ton site internet, on change ton PayPal ou on change le moyen de paiement. Et puis, on a déjà eu affaire à ça, des gens qui nous ont escroqués, qui ont changé. Quand on se connectait avec notre adresse IP, on ne voyait pas la même version du site.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, nous, on s'était allé très, très loin. Bon, nous, on a su se défendre après pour regarder. Maintenant, on était en place des systèmes encore plus importants. C'était vraiment comme un jeu vidéo. Tous les jours, on se faisait hacker, quoi. C'était, c'était incroyable.
Un monde sans pitié.
C'est ça.
Et tu disais justement que vous payez les développeurs, les architectes, et tu disais d'ailleurs que c'était un serveur qui a cumulé jusqu'à 1 million de joueurs. Vous avez réussi à monétiser du coup ce serveur?
Ah oui, exactement. Alors nous, combien on gagnait à peu près? C'était, pour être transparent, c'était 3 000 euros au départ par mois. C'était assez impressionnant. En fait, comment tu monétises un serveur? Je dirais que c'est pareil que quand ça sera la métaverse. C'est-à-dire que demain, tu vends un grade, tu vends En fait, le grade, c'était quoi? C'était un nom que tu avais spécial dans le jeu. Donc, tu étais différent des autres quand ils se connectaient. Aujourd'hui, c'est plutôt les grades VIP. Puisque Minecraft a aussi balancé des ULA pour changer, c'est un peu les conditions générales d'utilisation de Minecraft. Du coup, tu n'avais plus le droit de vendre des avantages dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient un peu plus rapides quand ils couraient, il y en a qui pouvaient voler quand ils n'avaient pas, quand ils n'étaient pas en combat, etc. Enfin, tu avais plein d'avantages, tu vendais aussi des déguisements. Nous, on avait aussi créé un système, c'était le Battle Pass, c'est le pass de combat, même sur Fortnite, il y est. C'est-à-dire que c'est un système d'aversion à la perte, c'est-à-dire que même si tu es niveau 100 et que tu n'as pas payé, bah, tu gagnes quand même des récompenses, mais si tu payes, tu vois toutes les récompenses que tu aurais pu avoir. Enfin, on avait créé plein de systèmes pour essayer de quand même faire générer de l'argent au serveur. Moi, c'est comme ça que j'ai financé mes études, c'est grâce à ce projet, mais ce qui était aussi incroyable, c'était que on devait payer quand même le serveur, payer aussi des personnes qui travaillaient avec nous, donc on était obligé de créer des systèmes monétaires et tout ça. Bah, comment tu fais quand tu es jeune pour pouvoir encaisser de l'argent, bah, au final, bah, tu dois utiliser du PayPal. Tu apprends, tu sais pas au départ que finalement, il faut créer une auto-entreprise. Et puis au final, bah, tu fais des erreurs et après, bah, tu crées et tu régules au final ta boîte.
Ouais, ce que j'avais demandé justement d'un point de vue compta, comment ça fonctionnait, mais du coup, tu as créé une auto-entreprise. Et tu disais 3 000 euros. C'est 3 000 euros par mois au total du serveur.
Ouais, ça a allé de 3 000 à 10 000 euros par mois. Okay. Ça a quand même augmenté à des moments. Bah, souvent, bah ouais, les périodes de Noël, c'était hyper intéressant. Mais ce qui était cool, c'était que vraiment, dans l'esprit, moi, ce qui m'a choqué toujours, c'était que tu avais des mecs, ils venaient, et puis du jour au lendemain, ils disaient. Ah, je peux mettre 1000 euros tout de suite. Mais même moi, Noël, je n'ai pas 1000 euros à mettre dans le jeu. Donc, c'est vrai que moi, j'ai jamais en fait acheté. J'ai jamais mis 1 euro pour pouvoir créer ce serveur. Donc, c'est ça où je me suis dit, j'ai réussi à créer un système de rentabilité quand même assez intéressant. Quand on parle d'un point de vue business, mais au-delà, c'était assez incroyable. Moi, j'étais vraiment content et ceux qui supportaient le serveur. Et malgré qu'ils avaient supporté, on ne différenciait pas aussi de ceux qui ne payaient pas. Mais ce qui était fou, c'est que tu avais quand même une belle cohésion. Tu en as qui achetaient pour les autres. Tu avais beaucoup de social. Moi, j'adorais ça aussi. C'était vraiment une communauté qui... Tout le monde se connaissait. Ouais. Mais ouais, c'était un peu ça, le serveur qu'on a créé. C'était vraiment incroyable. Moi, j'ai toujours nostalgique.
OK. Et après, donc, il y a eu la transition du serveur. Avier State, alors tu m'as dit qu'il y avait une petite expérience entre-temps d'une ENS, et comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé dans le Web3? Comment tu as eu l'idée de créer Avier State? Et même l'ENS avant qui était une ENS Web3, c'est ça?
Une ESN, ouais, une entreprise de services du numérique. C'était Web2, c'était vraiment... En fait, moi, après avoir fini Epitech, je faisais du freelance partout. J'avais mon serveur Minecraft au début de mes années. J'ai toujours eu des idées. Enfin, j'ai fait un an à Québec. C'est là où j'ai créé mon ESN. J'ai dit, tiens, Québec, c'est vrai que pour moi, ils ont une super force, c'est-à-dire d'avoir plein d'entreprises. Et puis moi, je m'étais dit, bah, tiens, on peut refaire plein de copycat français. Swile existe, là, les tickets ASTO digitaux avec une nouvelle carte en France. Bah, il faut aller importer au Québec. Enfin, je me suis dit, il y a plein d'idées que tu peux refaire, essayer de pitcher, monter une startup. Je me suis dit, bon, le plus simple, c'est vendre des développeurs puisque j'ai un bon réseau de devs. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, j'ai créé ça. Finalement, je suis retourné en France et je l'ai fait en France. Et en France, bah, voilà, j'ai commencé. Puis, c'était vraiment la vraie expérience entrepreneuriale parce que c'est très différent d'avoir un serveur Minecraft et de gérer même le freelancing. C'est très différent de gérer une boîte ESN. Puis, honnêtement, bah, voilà, je n'ai pas non plus hyper bien réussi. C'est-à-dire, au niveau gestion, je n'ai pas trop aimé gérer les projets clients. Ah, il y a un bug, il y a un bouton sur mon site qui ne marche pas. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas de gérer des problèmes aussi basiques. Et puis c'est vrai que le niveau tech des clients, bah, il n'était pas là. Moi, je voulais travailler à la base avec des grosses boîtes dans le cloud, etc. Puis au final, c'était des plus petits clients, mais c'était trop des sites internet basiques. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'ai vu les NFT, Sorar aussi, qui avait levé 500 millions. J'étais avec Madi, on était toujours amis, on s'appelle toujours. C'est une grande amitié, c'est un de mes meilleurs amis. Et bah, du coup, quand on était sur Internet, on s'est vu, bah, tiens, il y a les NFT. On a vu un yacht qui s'est vendu 750 000 dollars par EvoRealm, Rim Republic à l'époque. On s'est dit, ah tiens, il y a Snoop Dogg qui achète des terrains. Ah, on était en mode, ah, c'est la vibe. Et là, je dis à Madi, mais mec, c'est hyper moche ce qu'ils ont fait. C'est quoi ce design? Puis nous, en fait, c'est vrai qu'historiquement, bah, on avait créé des logiciels sur Minecraft de construction aussi. Ces logiciels de construction, on les a adaptés. On les a adaptés sur Sandbox directement. Et on s'est dit, bah, tiens, on va prendre quelques architectes qui travaillent toujours pour nous sur GTA, Roblox, Minecraft, parce qu'après c'était un autre business à part entière qu'on avait, des personnes qui travaillaient sur des projets. On avait toujours ce Discord avec pas mal de personnes qui construisaient, c'était des architectes virtuels. Et puis là, on s'est dit, tiens, on va faire un test, on va faire des petits projets. On a vu qu'on avait un projet d'une collection NFT, parce que les collections NFT, elles disaient toutes, on va aller dans le métaverse. Et moi, je me suis dit, il y a Sandbox, et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'architecte. Il n'y avait pas d'architecte, c'était vraiment un peu le tout départ. Tu avais la petite communauté de Sandbox qui créait des voxels. Parce que Sandbox, hein, c'est vraiment le métaverse voxel, donc c'est spécifique aussi. Donc c'était très simple pour nous d'y aller. Ça ressemblait à Minecraft, ça nous parlait fortement.
Voxel, c'est quand c'est vraiment très pixelisé.
C'est des pixel art. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un peu pixel art, mais ouais, c'est très pixelisé. C'est-à-dire que tu veux faire une sphère, ce sera une sphère avec des pixels. Bon, il y a des possibilités aujourd'hui techniques permettent un peu d'aplanir, mais c'est ça. On a parlé avec une collection qui s'appelait Meta Billionnaire. On a réussi à avoir un projet, ce qui était le départ. On a pris quelques architectes, et puis là on s'est dit, si ça devient concret, s'ils acceptent le contrat, let's go, on va mettre notre tech avec les architectes et on va vraiment créer une boîte. Puis c'est ce qui s'est passé. On a contacté après Exclusible et on aura créé avec eux, puisqu'ils avaient aussi une petite idée pour vendre des terrains sur Minecraft, sur Sandbox. Là, j'ai dit, ils montraient une construction d'une des architectes qu'ils avaient recrutée, une designeuse. Et je disais, c'est pas du tout au niveau comparé à ce qu'on fait. Parce que nous, on construit pas comme les autres. À partir de ce moment-là, on a commencé à construire avec nos logiciels et on se disait, en fait, on a la différence que tout le monde n'aura jamais, parce que c'est vrai que ce logiciel-là nous a pris des mois et des mois à développer déjà sur Minecraft, puis au final des années à être vraiment consolidé. On a adapté ce logiciel à nos équipes de tech et aujourd'hui, on a vendu pour ça. C'était vraiment le très gros projet qu'on a commencé. C'était 150 villas Exclusible, donc c'était des villas. Et puis on a fait aussi les îles privées, là où il y a Marco Verratti qui a acheté son terrain, etc.
C'est drôle parce que justement, j'ai interviewé Pierre il y a très récemment, et justement, on avait parlé des fameuses îles dans The Sandbox qui ont été vendues justement à Marco Verratti, Stan Wawrinka et des penthouses qui étaient dans Spatial, je crois.
Alors les penthouses, c'est pas nous du coup.
Ah non, justement, c'est encore autre chose.
Les penthouses, justement, c'est sur Spatial, c'est sur une autre métaverse. Ouais. Et non, c'est pas nous, ils ont racheté du coup cette entreprise, c'est Polycount. Ouais, et assez incroyable du coup ce qu'ils avaient réussi à faire. Et oui, nous on était vraiment sur la partie sandbox à ce moment-là. Puis du coup, nous aussi on a réussi à aller un peu sur ces univers d'autres métaverses 3D. Parce que là encore, il faut retravailler le logiciel, parce que la 3D c'est pas pareil. Et puis Blender, et t'as déjà un logiciel de communauté incroyable. On a fait les villas et puis les penthouses, et puis on a fait aussi leur expérience sur l'alpha V3 là de Sandbox, là qui a eu 17 millions de visites. C'était super, pas la nôtre expérience, hein, mais au global de Sandbox. Et c'est comme ça que VRState a commencé. Et en fait, la différence, c'est que là, on a vendu des immobiliers virtuels. Donc, c'est cool. On a réussi à faire générer à Exclusible 5 millions de dollars. Donc, c'est quand même un objectif quand même de pouvoir générer. Et puis qu'après, ils arrivent à augmenter du coup la communauté d'exclus, gérer une roadmap. Ce qui est super cool, c'est que c'est des premiers. En fait, c'est quand même historique, hein, d'avoir cette parcelle de terrain et cette maison, parce que c'est les premiers quand même de Sandbox. On va voir, quand on voit le design aujourd'hui, il était déjà très avancé comparé à ce qu'on faisait avant. C'est comme font les autres constructions, puisque les autres constructions construisent en cube à la base, comme Minecraft. Et là, enfin, les gens commencent à utiliser un peu plus de construction voxel. Hein. C'est vraiment, on crée toutes les fondations de la maison sur un logiciel, et après, on importe. Et plus juste en cliquant droit et en essayant de faire des formes avec des cubes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que au final, on s'est dit, mais on va pouvoir engager des marques directement. Et nous, sur Minecraft, on s'est toujours dit, c'est un bel environnement pour pouvoir amener des marques. Là, on a commencé vraiment à se mettre avec notre équipe commerciale qu'on avait constituée, donc d'anciens, quoi, que moi j'avais dans mon SN. Et là, on s'est dit, comment on crée une belle stratégie? Du coup, il y a les NFT, tu lis les NFT et la métaverse. Et puis là, du coup, on a commencé à se dire, en fait, finalement, il faut mesurer des KPI, parce que demain, En fait, aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était créer des expériences qui étaient alors nulles, qui n'avaient pas de rétention. Donc, c'est-à-dire qu'on vraiment, ah, c'est cool, voilà, je me suis connecté, ah, j'ai testé, etc. Mais le problème, bah, c'est que demain, si tu n'as personne, si tu n'as personne qui va rester sur ton expérience, ok, j'ai fait ma quête et puis je suis parti, et bah, c'est pas du tout intéressant pour l'utilisateur. Et même pour la marque, elle va se dire, bah, tiens, finalement, j'ai payé une construction assez cher, et puis au final, bah, elle a été utilisée pendant un mois, et puis bah, demain, bah, mon terrain virtuel, il n'est plus utilisable. Et nous, sur Minecraft, ce n'est pas du tout la vision qu'on a. Quand nos architectes créent un environnement, on l'anime, on va l'animer de plein de manières différentes, et aussi on crée de la rétention, avant, on crée une idée de rétention, parce que pour nous, bah, il n'y a pas que cette métaverse, hein, mais que ce soit Sandbox, que ce soit Spatials, que ce soit Roblox, que tu utilises hein, en métaverse, alors que c'est quand même un jeu vidéo, mais que tu utilises n'importe quel support créé par un moteur de jeu vidéo, l'idée c'est quand même que ton utilisateur tu le gardes. L'idée c'est qu'il ait un intérêt quand même à rester. Je dirais que le seul cas pour moi c'est vraiment quand tu vas créer juste une salle de conférence ou un bureau, tu vois, dans un univers virtuel, un espace 3D disponible sur le web où tu peux aller avec ton tel. Mais sinon, pour les marques, pour moi, c'est la rétention. Parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à créer comme business model économique d'un serveur Minecraft, c'est vraiment le même concept, mais encore, ce serait incroyable. C'est-à-dire que demain, on parle tous de communauté, que voilà, Discord, c'est une révolution, que tu n'interagis plus comme Instagram, juste en mettant un commentaire. Mais nous, ce qui était incroyable, c'est que dans le chat sur notre serveur, mais tu avais tellement de messages, les gens parlaient H24. On avait même créé la première fois le chat de proximité entre les personnes sur Minecraft. C'est-à-dire que c'est la métaverse aussi, hein, un peu avant l'heure, toujours, où tu as un joueur à côté, tu peux venir lui parler. Bon, c'était vraiment n'importe quoi, par contre. Parce que t'as les mecs qui s'insultaient. T'as les gars, ils avaient 10 ans, ils étaient là en train de s'insulter. Et tout. Mais tu vois, t'avais vraiment cet esprit de communauté. Les gens, tous les jours, ils y restaient. Et t'en as, en fait, ils jouaient même pas sur notre serveur. Ils étaient là, ils étaient juste pour discuter, retrouver son pote, tu sais, sauter, jouer avec leur personnage. C'était des avatars, quoi. Et c'est là où je dis que vraiment, bah nous, demain, on s'était dit, bah tiens, maintenant, on va créer des stratégies pour les marques. Alors maintenant, on dit, bah, pour accompagner un client, on se dit, mais bon, quel métaverse? Pourquoi? Parce que chaque métaverse a ses avantages. Sandbox, il y a de la blockchain. Spatial, il n'y en a pas. Sandbox, c'est du play to earn. Roblox, bah, tu joues gratuitement. Enfin, tu vas pas gagner d'argent en jouant. T'as des métaverses qui ont le chat activé, ce qui est vraiment cool, comme Horizon World. D'ailleurs, moi, on pourra faire un petit aparté à la fin, ouais, de Meta, parce que je vois tout le temps que tout le monde qui critique, mais c'est révolutionnaire ce qu'ils sont en train de créer au niveau tech. C'est vraiment, moi je dis que ceux qui vont critiquer, ils ont lu un article. Mais quand tu t'intéresses un peu à la tech, enfin, regarder les jeux VR, si tu testes les jeux VR, c'est impressionnant. Mais voilà, un peu, c'est vraiment, on va créer une stratégie, on va se poser les bonnes questions, on va essayer d'avoir des KPI, mais surtout sortir une expérience à une marque qui va permettre, bah, qu'elle utilise son monde tout le temps, que ça soit à Noël, tu vois, tu as une activation, tu peux le modifier, tu le changes, mais tu as toujours le même objectif, où demain tu vas changer ton jeu, ou enfin, c'est pas censé juste être un jeu. Nous on passait du temps sur des endroits créatifs, les gens peuvent créer des choses, après les exposer sur le même monde où ils sont. Finalement, tu n'as pas besoin d'être le créateur de la marque pour créer des choses dans un monde. Mais voilà, c'est vraiment comment créer tous ces univers. Et là où on est fort, bah, c'est qu'on a 10 ans d'expérience là-dedans. On a nos logiciels. Et autre chose, c'est que bah, pour Sandbox, en particularité, c'est qu'on a refait comme il y a 10 ans sur Minecraft. On a recodé, pas Sandbox, mais on a recodé des logiciels par-dessus Sandbox. Et en fait, on est en train de développer la première fois du modding system, parce qu'en fait, pour l'instant, Sandbox, bah, les jeux sont un peu basiques, c'est-à-dire que tu vas parler à un PNJ, à une quête, etc. Et là, on a récemment là, créé le premier Battle Royale sur Sandbox, bon, qui n'est pas disponible, hein, puisque là, on est en discussion et tout avec Sébastien Borger pour essayer d'intégrer ce SDK. On veut vraiment créer un SDK, puisque nous, on pense que le game maker, hein, parce que pour nous, les métavers, c'est blockchain, monde virtuel, game maker, pour l'UGC, mais c'est du no-code. Et pour moi, j'ai toujours cette vision Wix. Je ne sais pas si tu vois Wix, ouais, qui permet de faire des sites internet.
C'est un outil, hein, pour faire des sites très simplement, un peu en mode
Drag and drop. C'est très, bah, pour moi, c'est un peu ça, les game makers. C'est vraiment un outil très simple et on peut créer. Et Webflow, enfin voilà, pareil, c'est Webflow, Wix, c'est des sites pour faire des sites. Puis que demain, imagine, tu veux faire le site de ta startup, marketplace hyper avancé, etc. Bah, tu peux pas, il faut un développeur. Bah, c'est pareil pour moi, pour la métaverse et les expériences gamifiées ou très avancées. Bah, demain, tu as toujours besoin d'un développeur et un SDK, c'est assez simple. On va prendre le code source du jeu et on va dire, quand le joueur il avance, c'est vraiment du code. Hein. On va créer des events, on va dire on player, quand le joueur avance, et après fais ci, fais ça, et tout ça on va le coder, on va encapsuler, je dirais, toutes ces fonctions, et demain on va laisser la liberté aux développeurs de pouvoir créer l'expérience qu'ils veulent avec toute l'imagination. On va leur donner toutes les possibilités, et bien sûr faudra les bloquer sur certaines parties, mais c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment qu'on est allé au-delà de la puissance des métaverses aujourd'hui à pouvoir créer des expériences et gamifier plus avancé plus tard.
Hyper intéressant, j'ai vraiment plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Déjà pour commencer, donc, de ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, vous construisez, vous êtes une sorte de surcouche des métaverses pour construire par-dessus, et vous avez développé votre propre outil pour que vous utilisez en interne au service de marque, et que dans un second temps, la stratégie, ce serait un peu de commercialiser cet outil peut-être en mode SaaS pour que les marques puissent, en mode no-code, construire leur propre monde dans le métaverse.
Nous, en gros, ouais, pour c'est un peu ça, juste la fin. En gros, nous, voilà, on a créé nos propres logiciels. Pour l'instant, on les utilise que pour nos équipes. Par exemple, on a créé un logiciel de caméra 3D. Par contre, là, par exemple, on a partagé à l'équipe de Sandbox pour qu'ils puissent filmer les vidéos. Par exemple, c'est cool. Nous, on s'est dit, ah tiens, c'est cool. On a vu que les Bored Ape, la vidéo des expériences Bored Ape, ils sont plus la filmer avec. Gucci, pareil. Donc, on se dit, ah là, c'est assez cool. Nos logiciels, finalement, ils sont utilisés en interne chez Sandbox. Et là, on veut pas commercialiser cette partie-là. Nous, on veut juste aider parce qu'on est comme la communauté de Minecraft, tu vois, qui a buildé au départ, et on veut pas créer un business là-dessus. Par contre, pour notre levée de fonds, puisqu'on a préparé une levée de fonds là de 8 millions, là, on veut créer vraiment un tools pour tous les créateurs de toutes les métaverses qui va être un peu le middleware pour créer un peu ce début d'interopérabilité. Parce qu'en fait demain pour nous on believe que ce sera très difficile de pouvoir créer cette interopérabilité. Pour moi, il faudra un consensus, mais nos tools, plus tard, on va essayer de les rendre disponibles à la communauté dépendant des métaverses, mais on veut créer un tools unifié avec vraiment moyen d'exporter sur chaque métaverse ta construction qui sera plutôt desktop plutôt que web. Nous, on believe vraiment pas au no-code. Hein. C'est vraiment... pour créer des expériences avancées. Ouais. Mais il en faut quand même. Hein, il en faut quand même. Sinon, demain, t'as pas de construction. Hein. Minecraft reste du no-code à la base. Au niveau construction, en direct, tu peux construire. Mais sinon, nous, on va créer... Ouais, plus tard, notre idée, c'est créer une marketplace qui va permettre à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, demain, toi, tu voudrais ta maison dans le métaverse pour créer ton petit studio, là, pour faire tes podcasts. Le problème, c'est que tu vas devoir aller sur OpenSea, tu vas taper pour acheter un NFT qui contient ton... Alors, si tu as déjà un terrain virtuel, il va falloir acheter ton expérience. Ton expérience, ce sera le studio, du coup, qui sera construit, tu pourras venir le matin, etc., te mettre dessus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas devoir demander à une agence pour le construire. Et même si on sait que demain, les métavers vont créer leur propre marketplace pour vendre ces expériences-là, le problème, c'est que les NFT, pour l'instant, ne sont pas rétro-compatibles. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu achètes un NFT aujourd'hui d'une maison sur Sandbox, cette maison, elle ne marchera pas. C'est-à-dire que quand tu te connecteras avec ton compte sur Sandbox, aujourd'hui, même si tu as le NFT sur ton wallet, Sandbox ne comprend pas que ce NFT-là, il est censé être lié à une expérience sur Sandbox. Donc, il y a tous les systèmes en fait, à recoder aujourd'hui. C'est la vie. De toute façon, Sandbox vont le développer. Cette rétrocompatibilité du NFT vers du coup, ton compte. Mais le problème, c'est que...
À un moment donné. C'est juste que ça existe.
Ah oui, oui. Ouais. Mais par contre, la marketplace remplie de contenu, remplie par des créateurs et surtout pouvoir filtrer en toutes les métaverses, nous, en gros, on veut devenir un peu le OpenSea du Metaverse, mais avec un middleware, côté middleware pour les créateurs. Et nous, notre but, c'est de balancer tout notre réseau de créateurs, puisqu'on en a vraiment... sans qu'ils soient vraiment dans notre équipe, on a vraiment 1000 à 2000 réseaux de constructeurs qu'on peut vraiment activer, tu vois, les mettre directement et commencer à construire. C'est ça le but un peu de notre levée de fonds et de notre vision, c'est mettre en disposition à n'importe qui du contenu, parce qu'en fait, le challenge, la pain des métaverses demain, c'est avoir du content. Pour l'instant, il n'y a pas assez de content. C'est vraiment, il faut qu'on demande aux gens de créer, il faut les appâter avec de l'argent, alors que le problème, c'est qu'avant, bah sur ces jeux, ce qui est magnifique, Roblox, je pense que c'est l'exemple même, c'est que tout le monde a créé sans être payé, sans être une agence. Et c'est ça que j'aimerais retrouver un peu, c'est ce côté clean marketplace finalement. Maintenant, ils vont pouvoir gagner de l'argent en créant, mais grâce à ces outils bien plus avancés et aussi pouvoir rentrer plus facilement dans les métaverses. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à une communauté Minecraft, Roblox, GTA, de ces serveurs qui sont créés par de la communauté, de venir et de commencer à construire sur les métaverses, ils ne vont pas venir, c'est trop compliqué. Il y a 15 000 outils, souvent ils ont envie de toucher un peu à tout. Et là, tu leur mets quelque chose de packagé facile, gratuit, où ils peuvent construire et puis ils peuvent vendre après leur terrain virtuel. Mais pas que, surtout les jeux, parce que demain, pour moi, le gros business, ça va être les jeux virtuels que tu crées dans les expériences, ton terrain. Par exemple, sur Yuga Labs, demain, je pense que quand tu as acheté ton terrain sur Overside, là, la métaverse des Bored Ape, quand tu as acheté ton terrain, demain tu vas gamifier, puisqu'en plus eux par contre ils sont chauds, ils sont en train de créer. Alors au départ ils appelaient ça le SDK, après ils ont appelé ça le GDK, donc Game Development Kit, et après là ils ont appelé ça l'Oversight Development Kit. Et eux, ce qui est cool, c'est que vraiment ils ont bien compris ce sujet là dont j'ai expliqué, ne pas créer du game maker mais faire du SDK, enfin vraiment pour que les développeurs puissent créer. Et apparemment c'est vraiment leur objectif, mais aussi avoir une petite partie no code. Donc je pense que demain, voilà, la vision, ça va être les jeux. Donc demain, tu vas pouvoir vendre un Battle Royale déjà fait, tu vas pouvoir vendre un Capture the Flag, mais des choses avec de la rétention, c'est ça qui va être très important. Ils seront développés avec chacun leurs features, un qui va te dire, tu pourras connecter ta boutique en ligne, etc. C'est blockchainisé, enfin, ouais, vraiment ça.
Pas mal de questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première question, si on revient sur The Other Side, enfin... Déjà, par rapport à ce que vous faites, vous, donc de ce que je comprends, ce que tu ambitionnes de faire avec cette levée de 8 millions, c'est vraiment d'être, comme tu disais, une sorte d'OpenSea, mais dédié au métaverse.
Mmh. Exactement. Ah. Avec la partie tool, ce qui est vraiment différent, je dirais, d'OpenSea, et mais vraiment ce côté focus. Alors que pour moi, demain, OpenSea, même s'il pourrait faire une transition facile vers le métaverse, c'est très simple de proposer. Enfin, demain, je dirais, n'importe qui peut créer une marketplace Enfin, c'est très simple en termes de dev. Si tu demandes à 3 développeurs, tu vas sur Fiverr, tu vas sur Malte, tu vas n'importe où, tu demandes à des devs, petit développeur blockchain, petit développeur web. La différence, c'est vraiment comment tu arrives à avoir la communauté déjà de constructeurs. Troisième, c'est comment tu arrives à leur donner des outils aussi performants, parce que c'est long aujourd'hui de construire et c'est un process qui est hallucinant. C'est-à-dire aujourd'hui, pour mettre une expérience sur certaines métaverses, c'est hyper boring. Ça te prend. C'est même démotivant. C'est-à-dire que tu vois, il y en a, ils pensent que ça vient, c'est tout blanc. Et puis nous, on a automatisé plein de process. Et du coup, tu gagnes un temps fou. Et finalement, tes utilisateurs, ils s'intéressent que à créer du contenu. Donc au départ, nous, à vouloir la file avec plein d'expériences, c'est l'objectif. Et demain, c'est que le plus grand public aussi, parce que ça coûte très cher aujourd'hui. Tu veux acheter un terrain ou une maison, c'est super cher, c'est même pas abordable. Et nous, on believe pas dans cette vision que la métaverse, c'est 10 000 euros pour pouvoir avoir un terrain. C'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, les jeux vidéo, c'est la preuve même que juste avec une économie à 10-20 euros, t'arrives quand même à très bien créer des belles entreprises rentables. Et ça, c'est encore justement ce qui, je dirais, ferme le monde de la métaverse et qui va changer. Et tu disais Overside, désolé, j'ai
oublié. Non, justement, dans ce que tu disais Overside, j'ai l'impression finalement, et corrige-moi si je me trompe, mais finalement qu'on peut parler de 3 couches. La première couche, c'est le métaverse, donc ça peut être The Overside, ça peut être The Sandbox. La deuxième couche, ça peut être des acteurs comme vous, qui vont, entre guillemets, être une surcouche pour, entre guillemets, construire des outils de construction pour ces métaverses. Et la troisième couche, finalement, ça peut être les créateurs qui consomment votre couche à vous, qui est un peu une surcouche du métaverse, pour directement construire sur le métaverse.
C'est ça. En fait, finalement, les deux couches dont tu parles, les deux dernières, elles se rallient. Pour moi, c'est la communauté qui crée et Et ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, j'aime bien GTA, l'exemple, il est incroyable parce que GTA, tu vois, on le connaît tous. Avec nos potes, on est sur PlayStation, on est là, c'est le premier jeu où tu peux te balader dans la rue et faire ce que tu veux, tu prends ta caisse, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux faire ce que tu veux. Alors, le parallèle, tu vois, qui est trop marrant, ce que j'adore, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le Web3, mais finalement, ils n'ont jamais joué à un serveur roleplay. Les serveurs roleplay, c'est monstrueux. Et je pense que tout le monde hallucinerait. C'est des endroits où tu te connectes et tu as des gens, leur vie, ils font que ça de la journée. C'est-à-dire ils incarnent un policier. Et si tu veux être recruté, moi, j'ai essayé les recrutements policiers dans ces jeux-là, tu as été obligé d'incarner une vie. Tu as un personnage, tu me donnes tu peux t'appeler Pablo Escobar et puis tu vas jouer un personnage rital, italien ou mexicain qui vend de la drogue et tu fais la loi ou tu décides de devenir dans le légal. En fait, tu fais comme dans la vraie vie, tu décides de mener une vie fictive et tu as des vrais codes, tu es obligé de le faire. Et la différence, en fait, tu vois, de tous les jeux, c'est que tout ça, en fait, plus personne joue à GTA comme on le jouait avant. Et tu vois, c'est pareil. Là, il y a vraiment cette communauté qui a créé aujourd'hui le roleplay. Et tu vois, même là, il y a pas très longtemps, GTA Rockstar Games, donc l'entreprise qui a créé GTA avec Take-Two, donc du coup, qui est en l'entreprise qui gère vraiment tout, ont banni les NFT et la blockchain. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est la vraie métaverse aussi, GTA aujourd'hui. Pourquoi ? Moi, j'ai toujours eu ce discours, c'est pourquoi recréer des métaverses pour faire des centaines de millions à dépenser alors que tu peux prendre GTA, le base est bon, du coup, finalement, avec les ULA qu'ils ont sortis, pareil que Minecraft, qui ont régulé il y a très longtemps la vente de contenu, là, ils ont dit, désolé, on va devoir arrêter, mais aussi parce qu'apparemment, sur GTA 6, ils prévoient des NFT et de la blockchain. Mais tu vois, ils ont bien mis une ligne. On comprend qu'il y a la très grosse communauté de serveurs roleplay. Et tu vois, t'expliques le roleplay, mais les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais c'est quoi ce monde de fou? Parce que tu imagines, si t'as un voisin qui joue du roleplay, tu vas l'entendre, code rouge, les gars, on va au 18. Enfin, tu vas te dire, le mec derrière son PC, il est en train de faire le flic. Tu vois. Et tu dois vraiment apprendre les codes comme dans la vraie vie, sinon t'es viré. Et si tu te connectes pas, t'es vraiment viré comme dans la vraie vie. Tu vois.
C'est énorme, en fait. Ouais, c'est un peu penser à un escape game où il y a des acteurs dans l'escape game qui sont des acteurs, mais qui jouent un rôle. Et donc là, il y a
c'est exactement pareil, mais vraiment. J'aime bien cette explication plus simple. C'est vraiment ça. Et puis VRChat, c'est pareil. Les gens font du roleplay là-dedans. Bon, un peu plus bizarre pour le coup. J'ai un peu du mal avec VRChat, mais ouais, c'est pareil. T'incarnes un flic. Et par contre, c'est amusant, mais c'est fou. Hein. Moi, j'adore GTA. Quand t'es avec tes amis, c'est fou. Et puis là, tu vois, c'est le côté civil. Enfin, voilà. Et puis là, ils ont Red Dead Redemption, qui est un autre succès de Take-Two, de Rockstar Games, où là, tu incarnes du roleplay version cowboy. Donc là, c'est encore plus imaginatif. Hein. Et les gens font des scénarios hyper marrants. Et les très gros youtubeurs, aujourd'hui, font que ça, presque. Beaucoup de très gros youtubeurs, les gens, ils regardent ça. Ils regardent un mec qui se fait passer pour DiCaprio, il s'appelle. Et puis, ils font des trailers, des trucs. Enfin, c'est la pêche au contenu. Et tu vois, ça, c'est créé par la communauté. C'est pour ça que je dis vraiment, tu as deux couches. Tu as ceux qui ont créé le serveur, puis tu as la communauté finalement qui crée, puis tu as celle aussi qui joue, parce qu'elle elle believe là-dedans, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est la communauté 100% là-dedans.
Je trouve ça impressionnant comment le monde du jeu a un peu évolué. Et je trouve ça. Je suis vraiment impressionné par la manière dont vous avez réussi finalement à capitaliser sur votre expérience Minecraft pour justement VRState aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'outil que vous utilisez pour construire, c'est. Tu parlais de The Sandbox. Donc en fait, vous avez un peu, recycler, c'est-à-dire utiliser l'outil de Minecraft que vous avez un peu. Sur lequel vous avez développé derrière.
Mais exact. On a recyclé totalement et l'idée c'est qu'au fur et à mesure au final on rajoute plus des briques. En fait nous nos constructeurs ils vont travailler puis on va dire qu'est-ce qui vous prend du temps. Et puis moi c'est pareil, tu vois, j'ai toujours eu cette j'ai regardé une interview d'un youtubeur qui s'appelle Micode avec le président de Odoo, une super franchement j'étais impressionné leur startup d'ailleurs pour le recrutement, c'est un truc de malade, tu vois, ils ont scalé le recrutement. Tu vas sur le site, tu mets tes nombres d'années d'expérience, tu peux choisir ta voiture de fonction. C'est vraiment le truc de fou. À la fin, tu vois ton salaire, la voiture que tu vas avoir, tu mets Tesla, tu sais combien tu vas gagner et tout. Et tu vois, lui, en fait, il a créé des outils d'automatisation partout pour que personne ne perde du temps. Tu imagines même sur son propre recrutement RH, il a automatisé ça. Et nous, en fait, on a la même vision. C'est-à-dire que moi, même dans toutes les équipes aujourd'hui, mon but, c'est qu'ils utilisent les derniers outils du Notion, du Zapier, du No-Code pour automatiser leurs tâches quand ce n'est pas des développeurs. Et pour nous, les devs, ils doivent créer des outils pour que les architectes, par exemple, là, qui c'est vraiment plus spécifique, par exemple, tu vois, nous, on avait une grosse problématique au tout départ de Sandbox. On devait upload de 1000 assets à chaque fois sur un compte. 1000 assets, tu dois le faire à la main aujourd'hui. Donc, t'imagines, tous les autres studios aujourd'hui, c'est parce que nous, on crée des comptes à chaque fois par client différent, tu vois. Mmh. On veut pas faire un compte via state. On aime bien séparer les comptes parce que, imagine, demain, t'as une problématique, t'as un client qui veut mettre ça chez lui. Du coup, faut s'adapter, faut scaler maintenant. Et on a créé un logiciel, un bot qui automatise et qui met les 1000 en 10 minutes quand même, mais c'est mieux que de faire à la main 1000 assets que t'as construit, les rajouter. Et en plus, t'as le temps d'upload, etc. Donc franchement, ça me prendrait presque une journée, voire deux jours. Alors que là, maintenant, ça se fait automatiquement et t'as un bot qui tourne. Donc on gagne du temps, on leur fait gagner du temps, ils s'intéressent plus à la créa. Et puis là, ce qui est assez fou, c'est que t'as Midjourney, je sais pas si t'as vu OpenAI.
Justement, j'allais t'en parler parce que j'ai vu un de tes posts LinkedIn il y a une semaine là-dessus sur Midjourney. Ouais. Et ça avait l'air assez impressionnant, j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus.
Ouais, c'est exactement ça. C'est toujours dans la continuité de l'automatisation et comment on utilise aussi aujourd'hui des outils tech. Tu vois, moi j'étais, j'espère que personne ne veut Couples entendre, mais en gros, quand j'étais avec Couples, moi j'étais très tech et j'ai automatisé leur système d'envoi d'emails parce qu'ils n'utilisaient pas des Mailjet, des Sarbacane, etc., qui permettaient d'envoyer des emails automatisés. Et puis, 6 heures de travail des designers, je l'ai automatisé. Ça prenait 6 minutes pour faire des newsletters traduits en toutes les langues et qui récupéraient tous les produits du site. Et ça mettait automatiquement les liens et tout. C'était la problématique, c'est qu'elle le faisait à la mano avant. Et tu vois, c'est pareil. Midjourney, c'est la même chose. C'est comment demain, je prends 6 heures, par exemple, pour essayer de créer un truc. Je tape une commande et puis je génère mon image, mon croquis, mon moodboard. Alors qu'avant, j'étais obligé de demander, aller chercher sur Internet. Et en plus, c'est chiant parce que Internet, quand tu tapes une seule idée de créativité, tu trouves la même chose partout. Bon, encore, nous, je trouve que nos créas, c'est des génies. C'est des vrais artistes. Je les adore. Ils sont incroyables. Et nous, on a pris l'abonnement pour chacun. Chacun a son petit compte.
Sur une journée.
Ils l'utilisent.
D'ailleurs, tu peux expliquer ce que fait Midjourney. Moi, j'avais vu par exemple sur ce que tu as partagé, l'image de la Tour Eiffel. Mais donc, c'est-à-dire que concrètement, tu peux uploader une image et ça va te générer au format, un format précis.
En fait, tu vas. Alors, tu as deux choix. Ouais, tu peux uploader une image et tu peux. Par exemple, moi, je peux dessiner un croquis sur ma tablette. Moi, c'est ce que fait mon associé Maddy pour un client. Des fois, il est en rendez-vous, il va dessiner un schéma sur sa tablette, il va le donner à Midjourney, il va donner des textes, des mots-clés. Mets-le moi en réaliste, 3D, en isométrique pour avoir une vue, tu sais, un peu comme si tu as un lens, tu vois, en 3D, etc. Et tu vas lui donner du pixel, tu vas lui dire je le veux en voxel, le design, je le veux en nanana. Tu lui donnes plein de détails et après il va te générer l'image. En fait, ça reproduit exactement ce que tu as fait. C'est comme si tu avais la magie un peu de ce qu'on voit un peu sur les bandes annonces de HoloLens depuis longtemps ou de Meta. C'est quand les mecs, ils sont là, ils ont un schéma, ils arrivent à le ressortir en AR, mais en beau design, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que demain, nous, les designers, imagine toi, tu veux demain, je sais pas comment j'organise mon studio, on va utiliser OpenChatAI qui va nous expliquer comment le faire, qui est une espèce d'assistant, comme si tu avais un stagiaire à vie qui est hyper bon, et plus tu lui donnes de la donnée, plus il va devenir bon. Moi, ce que je fais, la technique, c'est qu'ils disent qu'ils n'enregistrent pas la donnée, mais à chaque fois, j'enregistre tout ce que je lui ai fait, je me suis présenté, etc. C'est moi, je copie-colle, et du coup, il sait dans quel domaine je travaille, il comprend tout. Et là, je peux lui dire, ouais, décris-moi un studio. Comment je pourrais le faire niveau architecture, nanana. Il me donne plein de mots-clés et là je lui dis à mon IA, tiens, je te donne tous les mots-clés, il me génère l'image et du coup on peut imaginer un studio pour toi dans la métaverse, tu vois. Et du coup t'as le POC, le croquis, et nos designers, comme ils sont hyper bons en plus dans le reproduire ce qui est en phase 2, et ils vont te reproduire ton studio dans la métaverse, et au moins t'auras déjà vu un croquis qui en plus est déjà en 3D hyper, hyper bien avancé, plutôt que nous de perdre du temps à le créer. C'est ça la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu sais qu'on perd, en tant qu'agence, il y en a beaucoup qui vont perdre énormément de temps parce que tu as des clients, ils vont te faire travailler, et au final, tu ne vas pas les closer. Donc, tu perds de l'argent, du temps et de la motivation. Et, Et le problème, bah, c'est que avant, bah, tu n'avais pas de solution, tu devais le faire, parce que du coup, c'est que comme ça aussi que tu closais certains clients. Ils ont besoin de voir quelque chose en avant. Ouais. Et puis finalement, ils vont travailler avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça, c'est pas ta faute. Après, c'est pas grave. Mais bah, du coup, avec ça, tu gagnes énormément de temps. Tu dis, bah, voilà, ça devrait ressembler à ça. Il a sa petite IA, il regarde. Et puis si ça ne lui va pas, tu dis, bah, ok, bah, pas de souci. Tu reprends l'image, tu modifies, tu rebalances dans l'IA.
Ah, c'est excellent. Parce que finalement, l'architecte, j'ai envie de dire, ouais, il a... plus, il n'a plus un rôle forcément de construction, mais plus un rôle de supervision, en fait.
Et exactement. Alors, ça dépend. Tu as des clients. Enfin, moi, il y en a beaucoup. Après, il y en a certains des architectes qui me disent « Ouais, non, moi, j'aime pas. » Mais il y en a beaucoup aussi qui aiment bien au niveau créativité. Mais au final, pour l'instant, on n'a pas encore reproduit de A à Z un schéma. Mais on a beaucoup réussi, nous, de nos présentations. Je dirais que c'est plus l'équipe commerciale et marketing qui en utilise aujourd'hui, okay, plutôt qu'aujourd'hui les architectes. Mais j'ai envie qu'ils aillent vraiment sur cette version. Mais ça les aide, ça leur donne des belles idées. Parce que finalement, imagine, tu es en train de créer le début d'une structure d'un bâtiment. Et bah, tu peux lui envoyer le début de la structure et il peut te finir carrément le bâtiment. Ça, c'est incroyable. C'est comme s'il y a un architecte dans la vraie vie, il se dit, tiens, j'ai envie de voir comment on pourrait le finir. Et puis, ça finit tout le bâtiment. Tu lui envoies une partie d'un bâtiment, il peut te finir la symétrie et tout. Et bon, la problématique, il n'a pas toutes les règles d'architecture, de la gravité, etc. Mais voilà. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est la révolution.
Ouais, complètement. Et dernière petite question avant de passer rapidement sur Horizon World. Donc, l'outil que vous avez pour l'instant, il est compatible que avec The Sandbox ou d'autres métaverses aussi?
Alors, aujourd'hui, nous, on l'a adapté à The Sandbox décentralement au départ. Et après, en fait, les autres métaverses, je dirais que ce n'est pas vraiment intéressant pour l'instant de s'avancer sur les adapter, puisque. Pour l'instant, au départ, pour nous, The Sandbox et Decentraland, du coup, Minecraft aussi, il marche. Roblox, pas GTA, parce que GTA, c'est vraiment totalement différent pour créer. Mais des autres métaverses, bon, Roblox, du coup, rétro-compatible, puisque tu peux utiliser des modèles 3D par rapport à Spatial, etc. Mais les autres métaverses, pourquoi? Parce que finalement, Decentraland, on a voulu s'y focus. Aujourd'hui, moi, j'y believe un peu moins, malgré que c'est aussi incroyable en termes de gameplay. Il y a un casino, tu peux faire des choses assez sympas, enfin... mais je dirais que moi j'aime pas me retrouver sur une métaverse et j'ai du mal à la vendre à un client où en fait je suis avec un personnage et je peux juste bouger, sauter et je peux même pas, j'ai pas plus d'interaction, je me sens limité, ouais. j'ai l'impression de revenir vraiment en arrière. Alors à part si c'est pour de la conférence, de l'événementiel, ça je comprends totalement, c'est même mieux parce que sinon tu vois les personnages ils font n'importe quoi, c'est pas corpo quoi pour certaines marques s'ils veulent vraiment une salle ou faire de la formation. Et pourquoi en fait on attend? Bah parce que moi j'attends quand même de voir un peu là où on va aller, parce que pour moi la métaverse c'est quand même un futur toujours incertain, on ne sait pas encore qui va créer. Mais nous en tout cas moi je vis sur une chose, c'est que notre modèle de toute façon c'est avant tout la marketplace et les tools, mais du coup la marketplace elle va aussi s'adapter à tous les jeux qui vont se convertir aussi en métaverse, parce que pour moi j'imagine quand même que Epic Games vont créer un truc, Ubisoft, ces géants là s'ils ne créent pas un truc c'est que pour l'instant ils n'en parlent pas, je pense qu'ils attendent aussi que la communauté gamer, hein, aujourd'hui tu leur en parles, et encore pire avec les youtubeurs, tu vois le premier youtubeur qui nous a montré Minecraft, là il se fait détruire sur internet parce qu'il a fait de la mauvaise pub sur là où il y avait Squeezie, Noxtag, les plus gros pour une collection NFT, donc t'imagines ça passe mal déjà que c'était pas très vu sur les youtubeurs. Et oui, bah, du coup au final nous on attend de voir parce que pour adapter encore à nouveau. Là, pour l'instant, ça nous suffit. On préfère plus voir tout ce qu'on peut leur faire gagner au niveau timing. Mais demain, la prochaine vision, c'est d'adapter sur Yuga Labs. Mais je pense qu'ils auront déjà sorti quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est plutôt l'interopérabilité qu'on essaie de regarder comment on arrive à l'adapter.
Ok. Avant de conclure, je te propose de rapidement parler de Horizon World. Tu en parlais tout à l'heure.
Ouais.
Tu disais justement qu'il y avait beaucoup de détracteurs. Toi, tu avais un avis un peu contraire. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Bah, Horizon World, pour moi, la grosse différence, c'est... en fait, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire « Ouais, c'est nul. C'est, regarde, ils ont investi 10 milliards. » Alors, de un, ils n'ont pas investi 10 milliards pour développer un jeu VR. Ils ont investi 10 milliards pour de l'AR. Ils préparent des trucs. On a déjà vu, là, ils ont déjà commencé un peu le teasing sur les Ray-Ban, tu sais, que tu as et que finalement tu vas avoir des hologrammes, etc. Tu as des chercheurs, hein, parce que en fait, finalement, Après, j'imagine, parce que moi, je l'ai compris bien comme ça, hein, quand j'ai vu la keynote, et puis à force un peu de chercher aussi des infos. Tu as des vrais scientifiques hein, qui sont derrière pour savoir comment en fait tu détectes un objet bah, avec bah, tout le machine learning qu'ils font pour entraîner les IA et tout. Tu as vraiment des chercheurs, tu as tout un truc scientifique, comment on ne peut pas avoir trop mal à la tête. Enfin, c'est des entreprises tellement colossales que je pense que c'est trop facile de les décrire en une phrase et dire ouais, ils ont investi 10 milliards, ils ont dépensé de l'argent. Non, je pense que tu as le marché, on l'a bien vu, hein, même nous, on est en train de construire des trucs incroyables, puis finalement, avec l'actu de la crypto, FTX, etc., bah, ça impacte. Et c'est pas pour autant que demain ton entreprise c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Et puis là c'est l'autre partie très tech. Est-ce que tu as testé Horizon World toi tu as testé ou
non,
pas encore?
Non, ouais. Moi j'ai testé que Decentraland et Sandbox.
Ouais. Bah, ça peut être intéressant que tu testes et au pire tu viens au bureau un jour. Hein. Mais en gros, ce qui est assez incroyable, c'est que si tu as déjà testé un peu des jeux VR, ce qu'ils ont fait qui est fou, c'est que bah, la créativité pour déjà créer, ils ont réussi à le faire en VR. Et au-delà de ça, c'est l'interaction. C'est-à-dire que quand tu vas voir des gens, moi, quand je check mon associé sur la VR, j'ai vraiment l'impression qu'il est avec moi dans la vraie vie. Tu vois, tu peux déjà faire tes réunions. Alors, Horizon World, c'est la métaverse qu'ils veulent faire. Et Workroom, c'est le côté vraiment pro où tu vas pouvoir avoir toute ta suite Teams, etc. Enfin, tous tes Slack et tout pour travailler. Et la différence, bah, c'est que déjà, tu as énormément de possibilités. Il n'y a aucune métaverse, je pense, aujourd'hui qui n'a autant d'immersion que Horizon World, parce que déjà c'est en VR, et demain je mets le challenge à tout le monde de développer un métaverse VR et d'avoir leur interactivité d'immersion. C'est-à-dire que quand tu joues à des jeux VR aujourd'hui, ton but c'est vraiment de te sentir comme dans un autre corps. Là, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réussi, et le défi déjà c'est Oculus, ils ont racheté Oculus, donc c'est sûr qu'ils vont faire les meilleurs jeux. Ils ont le hardware, ils savent exactement comment l'optimiser. Et ils ont la tech qu'ils ont créée. Et quand tu joues, moi j'ai assisté à un concert, mais une comédie, tu sais, d'un mec qui faisait de la comédie. Et déjà, tu as toutes les interactions grâce au nouveau casque, tu vois son visage bouger. Puis tous les jours, là, tu as des events et tout, tu as des mecs qui viennent pour assister à ces spectacles parce qu'ils ont créé une programmation. Et puis c'est fou. En fait, je me suis marré. Les gens ils sont là, ils participent, tu as des petites interactions, c'est encore très 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 basique, mais tu sais qu'en fait ils vont aller tellement loin plus tard en termes de graphisme. Pour l'instant c'est un test, il l'a toujours dit, c'est vraiment du test and learn. Et ok, oui, ils vont adapter sur mobile, etc., et sur desktop, mais quand ça va être fait, que ça va être adapté sur web, je pense que franchement ils vont détrôner pas mal de personnes en termes, parce que c'est fou en termes d'interactivité. Et t'as déjà par contre ça c'est un beau fact pour la fin, t'as déjà des personnes qui sont payées pour travailler là-bas. Tu te connectes et t'as un community guide, et le mec il est payé pour te guider et ils sont hyper cool. Genre ouais, salut, moi tu vois je me connecte avec Isaac, salut Isaac, t'es nouveau sur Horizon World, tu veux que je t'explique, tu vois, t'as vraiment quelqu'un qui est là pour que te guider. Alors d'un côté c'est marrant parce que t'avais beaucoup de gamins au départ, puis eux ils sont là et bon, même si c'est interdit aux gamins, ils sont quand même gentils avec eux. Mais c'est trop marrant, quoi. T'as des gars, ils sont là, ils font leur métier. Et puis, bon, après, en termes de gaming, c'est pas encore ça. Mais les jeux sont quand même assez intéressants parce que c'est créé par la communauté. Et Meta essaie quand même. Mais en termes d'architecture, de design, t'as moyen de faire des trucs assez, assez poussés. Mais c'est fou. Moi, je pense que c'est vraiment le futur aussi, Horizon World. Maintenant, on verra ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont prendre 40%, 30% sur les transactions? Est-ce qu'ils vont se mettre avec un token? C'est des questions sur lesquelles j'attends beaucoup de réponses de leur part plus tard. Mais pour moi, c'est incroyable. Il faut pas trop écouter ce qu'on voit dans les journaux.
Yes, tu m'as convaincu de tester. Je trouve ça drôle, un peu, ces nouveaux jobs du futur.
Ouais.
Merci de me parler. Top. Je te propose de conclure. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les prochaines actus de VRstate?
Ouais, carrément. Nous, on est en train d'avancer sur du coup notre levée de fonds. Là, c'est vraiment la grosse next step. Nous, on est en train d'essayer de lever vraiment 8 millions pour vraiment révolutionner ce marché du contenu dans la métaverse. Et on veut vraiment créer finalement ce OpenSea, ce middleware des créateurs, mais ce OpenSea aussi de la métaverse pour que tout le monde puisse pouvoir acheter des NFT. Les next steps, je pense que là, ça va être de créer pas mal d'expériences. On a pas mal de projets dans le pipe, mais j'ai pas trop le droit de dire parce que c'est pas mal de marques sympas. Nous, notre but aussi, c'est d'innover, discuter beaucoup avec ce qui se passe, les jeux qui vont sortir, enfin, les métaverses qui vont sortir, essayer de rentrer dedans. Moi, j'attends beaucoup Yuga Labs au niveau d'Overside pour vraiment tester. Ils arrivent à tenir plus de 5000 joueurs, c'est une révolution aussi, ça, j'en ai pas trop parlé, mais donc les Density, ça permet de tenir plus de 5000 joueurs alors qu'aucun jeu ne peut le faire aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu ça la next step, c'est attendre Yuga Labs, avancer sur la levée de fonds, continuer d'innover, de créer sur les métaverses qu'on fait, les projets métaverses qu'on crée, et aider ces marques, en fait, finalement, à rentrer dans le Web3, où souvent elles ont peur. Mais voilà, c'est un peu tout ça, le futur pour nous.
Yes. On n'a pas eu le temps d'ailleurs de parler des projets hein, sur lesquels vous travaillez, à part ceux en partenariat avec Exclusible, mais un prochain épisode peut-être. Yes. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un projet dans le Web3?
Un conseil à quelqu'un. Alors moi, je pars toujours sur une petite approche entrepreneuriale. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est sur Internet. Pour moi, il n'y a même pas besoin d'avoir fait d'études ou autre pour spécifique. Pour moi, c'est que de l'expérience, des erreurs. Il faut se lancer, hein, il faut y aller direct. Je pense qu'il y a, plein de sides. Tu peux aller, justement, tu peux faire de la métaverse, tu peux faire des NFT, des beaux projets. Hein, je ne dis pas qu'il faut faire des scams. Et en fait, il y a plein de métiers, justement, de pouvoir innover, de regarder là, justement, une métaverse qui n'est pas. Je trouve que justement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui ont voulu mettre le pied dans Horizon World. Mais bon, c'est VR, hein, il n'y a pas très peu d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder. Mais ouais, il faut innover, il faut regarder, il faut se poser des questions sur des concepts. Il y a plein de choses qui manquent. En fait, il y a tout à recréer. J'aime bien, il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais c'est réel. Il y a toutes les solutions tech à recréer dans le Web3. Ouais, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a de la chance, hein, on a une énorme chance en France, c'est qu'il y a tout le monde qui. C'est un petit réseau finalement. Moi, quand je vais aux States, tu revois des Français que tu vois partout. Quand tu vas aux events aux States, on était à Lisbonne à la Web Summit, mais tu rencontres tout le monde. Et c'est un réseau, c'est vraiment une petite famille. Et je trouve qu'il y a tout le monde qui est cool. Il n'y a personne qui ne t'inclut pas, même que tu sois une petite boîte ou une grosse boîte. Et franchement, Sandbox, c'est un beau terrain pour commencer. Ils aident énormément. Moi, je mets un gros big up d'ailleurs à Sandbox. Ils sont super cool parce qu'ils aident tout le monde à pouvoir se lancer. Et ça, c'est incroyable pour une très très grosse entreprise. Donc voilà, lancez-vous et puis il faut créer, il faut créer. Il y a tout le contenu justement qui manque. Et vraiment, il y a plein de jobs. Il y a développeurs, créateurs. Enfin, et puis il y a certains jobs, tu n'as même pas besoin de comprendre. Enfin, c'est de la passion. Puisque en fait, aujourd'hui, il n'y a personne qui connaissait le Web3 avant. Même nous, c'est le gaming, hein, notre univers. Et puis on s'est adapté, on a créé, on comprend les strates. Enfin, faut juste faire de la veille aussi, travailler. Et après, c'est let's go, quoi. C'est vraiment, faut se lancer comme nous.
Yes.
Et dans notre chambre, aujourd'hui, on a nos bureaux. C'est ça qui est cool.
Super. Merci beaucoup, Zacharia. Franchement, ça aurait pu durer encore des heures. J'ai pas eu le temps de te poser la majorité de mes questions, mais une prochaine. Et
Pas de
je te souhaite
souci.
bon courage pour ta levée.
Ouais, bah
et je te dis
merci
à très vite.
beaucoup. Merci beaucoup, Gary.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le Web3 a désormais encore moins de secrets pour vous grâce à notre invité du jour. Bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec votre entourage, connaisseur ou non du Web3. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'invités pour ce podcast, vous pouvez me contacter en tapant Gary Peneza sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans les coulisses du Web3.